Alors pourquoi parler de la chute de la personne âgée ? Une personne sur trois, un des plus de 65 ans vivant à domicile, chute dans l'année. La proportion de personnes ayant chuté augmente avec l'âge. Le risque est plus important chez les femmes. Conséquences des chutes, elles sont psychologiques, perte de confiance en soi, elles sont physiques, moins de mobilité et plus de dépendance. Elles sont aussi économiques, hospitalisation, rééducation, dépendance. C'est la première cause de mortalité par accident. Alors c'est une action coportée par la Mutualité Française Bretagne et le Centre Intercommunal d'Action Sociale, le CIAS, dans le cadre du contrat local de santé 2019-2024. Elle associe donc la CARSAT Bretagne, la MSA d'Armorique, le Centre Hospitalier de Tréguier, Pour Bien Vieillir Bretagne, Actimut et la maison du département de Lannion. Alors on va retrouver une scénette de la pièce Juliette au pays des embûches, c'est le deuxième épisode. Alors Juliette, je vous rappelle, environ 70-80 ans, a chuté dans son escalier et se retrouve hospitalisée pour quelques examens. Elle se retrouve dans une chambre double avec une jeune femme qui a eu un accident de voiture et qui deviendra sa confidente. Juliette aura la visite du médecin, de l'infirmière, de son aide à domicile, sa sœur, sa voisine, sa fille et son gendre. Donc voici le deuxième épisode et on retrouve juste après le docteur Géniol pour parler notamment de ces questions de chute.
Bonjour mesdames.
Bonjour docteur.
Bon, plus de peur que de mal, vous pourrez sortir demain, Nathalie. Même chose pour vous, madame Bognac. Rien de cassé. Ma chambre est miraculée ici.
Même pas un petit col du fémur.
Oh, mais vous savez, ça aurait pu être très grave. D'ailleurs, on vous garde aujourd'hui en observation. Vous prenez des médicaments?
Oh oui, pour dormir. Tenez, j'ai mon ordonnance.
Oula, mais y a de quoi endormir un éléphant avec ça.
Mais dites donc, je surveille ma ligne pourtant.
Je plaisante, mais je trouve les doses un peu fortes. Vous vous couchez à quelle heure?
Oh, je me couche vers 20h. Je me réveille vers 2h. Alors du coup, je prends un ou deux cachets et je me rendors jusqu'à 7 ou 8 heures.
Et vous faites la sieste?
Oh, pas vraiment. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à regarder les feux de l'amour sans piquer un peu du nez.
Vous savez, avec l'âge, on a moins besoin de sommeil. Il n'est pas bon de se gaver de cachet pour se forcer à dormir.
Oh oui, mais docteur, quand on dort, on ne pense pas. Vous savez, les nuits sont longues.
Je sais. C'est pour ça aussi que vous prenez des antidépresseurs.
Oh, cet hiver, j'étais un peu déprimée. Oui, j'en ai parlé à mon médecin, mais maintenant, je vais mieux.
Vous savez, les mélanges, c'est pas l'idéal. Vous étiez déjà tombé avant?
Non. Ah si, le mois dernier, j'étais mouillée, j'ai glissé devant l'évier. J'avais le genou un peu raide, alors il a lâché.
Eh bien, on verra tout ça demain.
La révision complète, quoi.
Alors maintenant, pour parler de la chute de la personne âgée, je reçois le docteur Géniol. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier, votre structure et les actions que vous menez pour les personnes âgées, notamment les actions orientées sur la prévention des chutes?
Oui, bien sûr. Je suis médecin à l'hôpital de Tréguier. L'hôpital de Tréguier est un hôpital gériatrique,
oui.
C'est-à-dire qu'il ne s'occupe que des personnes âgées, et ils présentent une filière de soins complète pour les personnes âgées. Il y a de la médecine aiguë, il y a des soins de suite et de réadaptation. Il y a aussi des EHPAD, un service de long séjour. Et il y a, surtout en termes de prévention, un hôpital de jour,
ouais,
qui est chargé de faire le diagnostic des maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson, troubles de la mémoire, mais on travaille aussi sur les chutes avec un temps de diagnostic qui est effectué par une une équipe pluridisciplinaire. Mmh. Et ensuite, en fonction de ce que nous avons trouvé au cours de ces examens, la prise en soins en hôpital de jour, en soins de suite et de rééducation hôpital de jour, où là encore, on reçoit une fois par semaine, pendant 12 semaines de suite, des personnes à risque de chute.
D'accord.
Et... prise en charge par les ergothérapeutes, par les kinésithérapeutes, par les enseignants en aide à pratique physique adaptée, et puis avec des interventions ponctuelles de médecins, de pharmaciens, de diététiciennes, vraiment la prise en soins pluridisciplinaire pour éviter que les chutes se reproduisent.
Alors justement, quelles sont les causes de la chute liée à la personne âgée ?
Alors, la chute chez la personne âgée est quelque chose de grave. C'est quand même à peu près 10 000 décès par an. C'est un quart des personnes âgées qui sont hospitalisées pour chute décèdent dans l'année. 40% des personnes hospitalisées pour chute sont institutionnalisées après, c'est-à-dire il y a une perte d'autonomie telle qu'ils ne peuvent plus vivre à domicile. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très grave. La chute chez la personne âgée est multifactorielle, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne tombe jamais pour une seule raison. Il y a toujours un ensemble de causes, et donc c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que nous les gériatres, on a une vue d'ensemble.
Oui.
Donc les causes, pour les résumer, il y en a certaines qui sont liées typiquement au vieillissement de la personne âgée.
D'accord.
Avec des modifications de la marche, des diminutions des capacités sensorielles, la vue, l'équilibre, l'audition. Il y a des diminutions des amplitudes articulaires. Hein, l'arthrose diminue l'amplitude des mouvements. Il y a une diminution de la réactivité, c'est-à-dire une diminution des réflexes. La prévention de la chute sera plus lente à se mettre en place. Et puis, il peut y avoir aussi des troubles de la mémoire et puis des troubles attentionnels qui vont les accompagner. Tout ceci, en plus, implique pour la personne âgée une diminution des capacités physiques et donc de l'activité physique. Cette diminution de l'activité physique entraîne l'ostéoporose, la diminution de la force musculaire, l'usure des cartilages. Voilà, il y a déjà des choses qui sont liées directement au vieillissement de la personne âgée. Ensuite, il y a les maladies dont sont victimes les personnes âgées, les troubles cardiologiques qui peuvent donner des pertes de connaissance, des troubles de l'équilibre, des chutes brutales lorsque les artères qui irriguent le cerveau sont bouchées. Il y a aussi les maladies neurologiques avec les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux qui peuvent parfois passer inaperçus. Il y a des troubles liés directement à des maladies des nerfs comme les neuropathies périphériques, c'est-à-dire les atteintes des nerfs périphériques en cas de certaines maladies comme le diabète, par exemple. Il y a aussi des causes qui sont liées au traitement, mais ça je préférerais le développer un petit peu plus tard.
Oui.
Et puis, il y a des causes qui sont liées aussi au comportement des personnes âgées qui sont parfois imprudentes, qui vont monter sur des escabeaux alors qu'ils n'ont plus la mobilité et l'équilibre pour le faire. Et puis aussi, un problème qui est important, qu'il ne faut pas nier aussi chez les personnes âgées, c'est la consommation d'alcool.
D'accord.
Les personnes âgées sont beaucoup plus sensibles aux troubles de l'équilibre induits par l'alcool pour des quantités pas forcément très importantes. Une autre cause qui va être retrouvée, ce sont celles qui sont liées à l'environnement de la personne âgée, c'est-à-dire à son domicile. Il y a quand même une chute sur deux qui a lieu à la maison et dans 15% des cas, c'est ou dans la salle de bain ou dans l'escalier. Avec des carpettes qui vont glisser, avec des tapis qui sont mal fixés et qui dans lesquels on peut se prendre les pieds, des fils qui circulent un petit peu à travers la, l'appartement, avec des lits qui ne sont pas forcément adaptés, avec un couchage trop bas ou à l'inverse, un couchage trop haut. Il y a aussi des problèmes parfois vestimentaires. Nous attachons toujours beaucoup d'importance à la qualité du chaussage.
Ouais.
C'est vrai que les hauts talons ou ce que j'appellerais des savates ne sont pas très adaptés à la marche de la personne âgée.
Et alors, on a toutes ces causes, mais du coup, bah, il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences d'une chute chez le sujet âgé?
Alors, comme je vous le disais, les conséquences sont très graves. Donc, je ne vais pas revenir sur le risque, sur les décès. La chute est fréquente chez la personne âgée. Un tiers des personnes qui ont plus de 65 ans vont tomber au moins une fois dans l'année.
Mmh.
Et quand on passe au-dessus de 80 ans, c'en est une sur deux qui tombe dans l'année.
Oui.
Toute personne qui est tombée a un risque à peu près de 50% de retomber dans l'année qui suit.
D'accord.
Donc, les conséquences sont vraiment très, très graves. Pardon. Elles s'accompagnent très fréquemment de complications. La plus connue, c'est bien sûr le traumatisme osseux avec la fracture. Environ 5% des chutes sont liées à s'accompagnent d'une fracture osseuse, avec la redoutable fracture du col du fémur que tout le monde connaît bien et que nous craignons particulièrement, car elle est source de perte d'autonomie et parfois même source de décès en relation aux complications aux soins.
Ouais.
Je vous détaillerai. Sinon, même quand les personnes âgées tombent, même si elles ne se blessent pas au niveau des os, il peut y avoir des plaies, des hématomes, des ecchymoses qui vont avoir une importance aussi redoutable et qui peuvent amener une hospitalisation. Et à partir du moment où la personne âgée est hospitalisée, on craint toutes les complications qui sont liées à l'hospitalisation, qui peuvent être des complications principalement liées au fait que les personnes âgées restent allongées et peuvent donc présenter des escarres, ce que nous appelons des syndromes confusionnels, c'est-à-dire des moments où les personnes âgées sont totalement perturbées, désorientées dans le temps et dans l'espace,
ouais.
Avec là encore un risque de chute majorée parce qu'elles ne savent plus ce qu'elles font,
oui.
Elles ne savent plus ce qu'elles ont. Elles se lèvent du lit dans lequel elles sont hospitalisées et là, elles vont rechuter de nouveau.
Ouais.
Il y a aussi un risque d'ostéoporose au long cours, de dénutrition, de déshydratation parce que la personne âgée allongée boit moins, mange moins. Et il peut y avoir aussi des risques infectieux augmentés avec notamment des risques de pneumonie et puis des risques d'infection urinaire. Et surtout, ce qui va se développer après la chute, c'est une perte de confiance de la personne âgée,
ouais.
Qui va avoir peur de tomber et qui va développer ce que nous appelons le syndrome post-chute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison de tomber, la force musculaire est revenue, les os se sont solidifiés, la personne âgée va mieux, mais elle garde la crainte de tomber avec des attitudes particulières. Et puis surtout, elle va se déplacer de moins en moins et va petit à petit présenter une désociabilisation, c'est-à-dire que cette personne qui était bien dynamique, qui allait avec ses amis jouer aux cartes, au club, qui sortait pour voir ses enfants, va avoir peur de tomber, va rester au fauteuil toute la journée et petit à petit son état va se dégrader avec des éléments dépressifs aussi qui sont aussi une façon de se laisser aller, je dirais.
Ouais.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très grave, la chute chez la personne âgée.
Ouais, parce qu'elle va moins sortir du coup aussi, hein, comme vous venez de dire. Et on parlait tout à l'heure, les personnes âgées, ils prennent aussi beaucoup de médicaments. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la consommation de médicaments et la chute?
Et oui, malheureusement, on fait un lien entre les médicaments et la chute. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les somnifères qui fassent tomber les personnes âgées. J'ai pris bonne note de ce qui était dit dans la petite piécette avant, mais les autres médicaments peuvent aussi occasionner des chutes, notamment les traitements cardiovasculaires. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments pour le cœur, hein, surtout pas, c'est pas mon propos, mais il faut être très vigilant par rapport aux effets secondaires de ces médicaments. Il y a des médicaments pour le cœur qui peuvent jouer sur le rythme du cœur, le ralentir ou l'accélérer, et ça peut s'accompagner de vertige, de malaise, voire de perte de connaissance chez la personne âgée, donc là encore, de chute. Quand on prend un traitement pour la tension, elle fait, bien sûr, ce médicament est efficace et fait baisser la tension, mais il ne faut pas trop la faire baisser car il y a un risque d'hypotension, surtout cette hypotension redoutable qui est l'hypotension orthostatique qui apparaît au changement de position, notamment quand la personne âgée passe de la position allongée à la position debout. Ouais. En plus, elle est parfois, cette hypotension est retardée, c'est parce que si elle avait lieu dès le changement de position, ça ne poserait pas trop de problèmes. Si la personne est dans son lit et qu'elle tombe dans son lit, elle ne se fait pas mal. Mais souvent, elle apparaît quelques secondes plus tard et à partir du moment où la personne âgée est debout. Et donc, les médicaments qui font baisser la tension doivent être surveillés de près par le médecin traitant pour que justement, il n'y ait pas cette hypotension orthostatique. Et très souvent, les médecins dépistent cette hypotension orthostatique à leur cabinet parce que c'est quelque chose qu'ils redoutent particulièrement. Les médicaments pour le diabète aussi peuvent occasionner des hypoglycémies. Et donc, les hypoglycémies s'accompagnent d'une faiblesse générale et donc d'une chute. Autre médicament qui peut compliquer les chutes, ce sont les anticoagulants.
Ouais.
15 à 20% de la population âgée est sous anticoagulants, voire sous anti-agrégants simples, anti-agrégants plaquettaires comme l'aspirine, parce que ce sont des médicaments qui sont très utiles. Mais c'est sûr qu'en cas de chute, ce sont des médicaments qui peuvent faire saigner de façon abondante. Alors, dans les meilleurs des cas, ce sont des ecchymoses, hein, des bleus. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'hématome, qui peut être sous-cutané. Dans ce cas, n'est pas trop compliqué. Mais quand ce sont des hématomes qui ont lieu aussi bien dans la cavité abdominale ou bien au niveau cérébral, c'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences dramatiques.
Ouais, importante. Alors, on parle donc de consommation de médicaments, mais il y a aussi le sommeil hein, de la personne âgée. Est-ce que vous pouvez nous parler du sommeil de la personne âgée, celui est-ce qui se modifie avec l'âge? Est-ce qu'on retrouve un lien aussi entre le somnifère et la chute?
Alors, le sommeil peut se modifier chez certaines personnes âgées. Ce n'est pas forcément une généralité. On pense que c'est 20 à 30% des personnes âgées qui ont un rythme du sommeil modifié. Rythme modifié au niveau des séquences, des phases du sommeil, sommeil profond, sommeil paradoxal, qui induit souvent des réveils nocturnes un petit peu plus prolongés.
Ouais.
Et puis, il y a un raccourcissement du temps de sommeil, mais ça, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Hein. On prend toujours la référence du nourrisson qui peut dormir jusqu'à 16-17 heures par jour. Et plus on avance en âge, malgré tout, le temps de sommeil se raccourcit pour arriver à 6 ou 7 heures par nuit. Mais des fois, ce sommeil est fractionné, avec un temps d'endormissement en début d'après-midi que la patiente qu'on entendait connaît bien, elle a du mal à regarder les feux de l'amour. Et donc, ce temps de sommeil pris l'après-midi, évidemment, est du temps de sommeil en moins la nuit. Moi, je dis toujours que ne pas dormir, c'est pas grave si on ne travaille pas le lendemain. Mais c'est quelque chose que les personnes âgées ont du mal à entendre, parce que c'est sûr que quand on ne dort pas la nuit, on pense, et on pense rarement à des choses agréables. Et donc, ces périodes d'insomnie s'accompagnent d'angoisse, avec la demande auprès du médecin de faire céder ces angoisses à l'aide de médicaments que nous qualifions d'hypnotiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire dormir, mais ils apaisent aussi. Malheureusement, ces médicaments ont des effets souvent de très longue durée d'action chez les personnes âgées. Il y a certains médicaments qui peuvent agir pendant 72 heures, c'est-à-dire qu'au bout de 72 heures, il y a encore la demi-dose du médicament pris qui circule. Et 72 heures, c'est 3 jours. Et si on le prend tous les jours, vous voyez la quantité qui peut s'accumuler. Et ces médicaments ont tous la particularité de créer des somnolences, donc des risques de sommeil, mais aussi des pertes d'équilibre importantes. Et donc, on a des personnes âgées qui ont pris le somnifère le soir à 20h, qui sont, malgré elles, encore sous l'effet de ces médicaments le lendemain à 14h, avec un risque de chute important. Il y a quelques médicaments qui existent pour les troubles du sommeil, mais je crois qu'il y a un très très lourd travail d'éducation thérapeutique à faire avec les personnes âgées pour essayer de leur faire comprendre la modification du rythme de sommeil, qu'on n'a pas besoin de se coucher automatiquement à 8h ou 8h30, qu'on peut encore avoir quelques activités, d'essayer de retarder le plus possible le moment du coucher pour essayer de mettre de son côté ce raccourcissement du temps de sommeil, de se coucher à 23h et se lever à 7h. Ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Et puis surtout, si jamais on ne dort pas, c'est pas de rester dans son lit à rien faire, à laisser les idées noires tourner dans sa tête, mais c'est de se lever, de lire, d'avoir une activité différente. Mais c'est un travail très compliqué que les médecins généralistes ont à faire. Alors nous, pour nous gériatres, c'est parfois un petit peu plus facile, parce que quand on garde les gens un peu comme ça pendant quelques temps après une chute en service de rééducation, on va pouvoir les garder pendant trois ou quatre semaines et puis travailler avec eux cette modification du rythme du sommeil. Mais malheureusement, souvent, quand ils retournent en ville, ils retrouvent ces troubles du sommeil. Et puis, comme on ne peut pas les encourager tous les jours, c'est vrai qu'ils retombent vite dans le travers des somnifères et des anxiolytiques, ce que nous regrettons.
Et les personnes qui dorment l'après-midi, ils n'ont pas assez dormi la nuit, ou vu qu'ils dorment encore un petit peu plus, ils ont moins de risques aussi de chute?
Non, alors la sieste de l'après-midi n'est pas forcément une mauvaise chose, mais elle doit être limitée à une vingtaine de minutes.
D'accord.
Ça correspond à une période d'endormissement classique, qui est celle de midi à 1h, que tout le monde connaît, même les adultes. C'est pas par hasard si les enfants font la sieste en début d'après-midi.
À l'école, ouais.
Donc ça correspond à quelque chose qui est physiologique, mais qu'il ne faut pas prolonger, parce que 20 minutes, c'est reposant, mais ça ne suffit pas pour atteindre un sommeil profond, et donc quelque part, ça n'ampute pas le temps de sommeil.
Ouais.
Par contre, c'est vrai que la sieste de 2h, c'est 2h de sommeil en moins sur la nuit.
Ouais.
Ça, c'est certain. Et donc, dormir un petit peu l'après-midi, en début d'après-midi, n'est pas forcément toxique, et en tout cas, n'est pas à risque de chute, sauf en cas de réveil brutal, bien sûr. Ça, c'est faut faire attention, parce que, là encore une fois, l'hypotension orthostatique, cette hypotension qui apparaît quand on se met debout brutalement, guette toujours la personne âgée.
Alors ma dernière question, c'est le rôle finalement de l'alimentation pour bien vieillir, et notamment pour la santé des os et des muscles.
Eh ben, oui, tout à fait. Alors, il faut retirer l'idée reçue que la personne âgée doit moins manger que l'adulte en exercice. La quantité de calories est identique, la qualité et la quantité doivent être identiques, quel que soit l'âge que l'on a. Et souvent, on constate chez les personnes âgées qu'elles diminuent souvent leur ration protéique. Alors, je dirais la viande en premier, mais surtout toutes les autres protéines qui même ne sont pas animales, et ont tendance à moins manger. Or, les protéines, c'est ce qui permet de fabriquer du muscle, et le muscle, c'est ce qui nous permet quand même de tenir debout et de marcher. Donc, il faut manger des protéines sous toutes leurs formes. Ça peut être des protéines animales directes, la viande, le poisson, mais ça peut être aussi le fromage, les laitages, et éventuellement, quand le médecin dépiste des carences en protéines, parce que c'est facile à mettre en évidence, dans ce cas, on peut enrichir l'alimentation avec des protéines, soit du jambon bouliné, soit du gruyère, soit de la crème fraîche,
ouais.
Ou bien effectivement des aliments hyperprotidiques comme on en trouve dans les pharmacies. Et donc, c'est un élément d'importance. Et puis, pour l'os, bien sûr, le calcium, qu'on retrouve principalement dans les laitages, quels qu'ils soient. Et il faut au moins 3 rations de laitage par jour pour la personne âgée. Hein. C'est, m'en prendre pour garder des os bien solides. Et puis, en accord avec le médecin traitant, moi, je serais aussi tenté de proposer une petite ration de vitamine D tous les 3 mois. Ça permet de fixer un petit peu mieux le calcium. Et si je peux me permettre un dernier conseil en termes d'alimentation pour préparer un petit peu cette émission, c'est je suis allé sur le site pour bien vieillir Bretagne,
oui.
Qui est vraiment un site internet qui est bien fait. Et d'une part, j'y ai trouvé des conseils pour éviter les chutes, et il y a aussi de nombreux conseils quant à l'alimentation. Et j'inciterai tous nos seniors internautes d'aller voir sur ce site. En plus, après, il y a des ateliers notamment équilibre qui sont très proches de ce que nous proposons, nous, à l'hôpital de jour de Tréguier. Donc, je ne pourrais qu'encourager les gens à aller voir ce site.
Eh ben, merci beaucoup, docteur Géniol, d'avoir été sur Millennium pour nous parler de la chute chez la personne âgée.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Bonne journée.
Bonne journée. Nous, eh bien, pour cette suite, hein, pour cette suite avec les scénettes de Juliette au pays des embûches, on se retrouve mardi. Alors, ça sera exactement le mardi 5 janvier, hein, pour parler encore de la chute chez la personne âgée. Et je serai en compagnie d'un ergothérapeute.